Journal d'un écrivain, 1876, mai. Chapitre 1, l'affaire Kaïrova, extrait d'une lettre. On me demande si je n'écrirai rien sur l'ère Kaïrova. J'ai reçu nombre de lettres qui contiennent cette question. L'une d'elles m'a paru fort intéressante. Elle n'était évidemment pas destinée à la publicité, mais je me permettrai d'en citer quelques lignes, tout en dissimulant discrètement la personnalité de son auteur. J'espère que mon honorable correspondant ne m'en voudra pas. C'est avec un profond sentiment de dégoût que nous avons lu l'affaire de la Kaïrova. Cette affaire nous met en présence des plus bas instincts. La mère de l'héroïne principale s'adonna à la boisson pendant sa grossesse. Son père était un ivrogne, son frère a bu au point de perdre la raison. Un de ses cousins a égorgé sa femme. La mère de son père était folle. Voilà le milieu d'où est issue cette Kaïrova. L'accusateur lui-même se demanda si elle n'était pas folle. Quelques médecins experts niaient. D'autres admettaient la possibilité de la démence. Mais ce procès nous révèle surtout non pas tant une folle qu'une femme arrivée à la limite extrême de la négation de tout ce qui est sain. Pour elle, la famille n'existe pas. Nulle femme, devant elle, n'a les moindres droits sur son propre mari, ne peut même dire que sa vie lui appartient. L'odieuse lubricité de la Kaïrova doit primer tout. On l'a acquittée comme folle, peut-être en faut-il remercier Dieu, car il n'est pas impossible qu'elle soit insensée. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que dans le public, composé exclusivement de dames, des applaudissements aient retenti. Des applaudissements, pourquoi? Pour l'acquittement d'une folle ou pour l'impunité accordée au cynisme et au débordement féminin? Des femmes, des mères ont applaudi. Ce n'est pas applaudir, mais bien pleurer qu'il fallait, en présence d'un tel outrage à ce qui devrait être l'idéal d'une femme. J'omets ici quelques lignes décidément trop violentes. Pouvez-vous passer cela sous silence? La voix de la province. Il est peut-être bien tard pour revenir sur le détail de cette affaire de la Kaïrova. Du reste, tout le monde est au courant. Je voudrais en dire quelques mots cependant, car rien ne finit, et il n'est donc jamais trop tard en réalité pour examiner une affaire intéressante. Toute aventure de ce genre a une suite qui rajeunit, et je vois que tout le public russe s'est passionné pour le procès. Les nombreuses lettres que je reçois en sont une preuve. Nos provinces, elles aussi, ont donné. Comme l'ont depuis longtemps remarqué les journaux, elles veulent vivre de leur propre vie, et un recueil de Kazan, intitulé « Le premier pas », et dont nous aurions déjà dû parler, a dit des choses d'une extrême importance. Voici que de nouvelles voix se joignent au vieux cœur russe. Jusqu'à présent, Pétersbourg et Moscou ont mené la Russie, et cela depuis Pierre le Grand. Le rôle de Pétersbourg, celui de fenêtre ouverte sur l'Europe, semble modifié à l'heure qu'il est. Non pas fini, modifié. Maintenant, il faut dire que Pétersbourg, fondé en quelque sorte dans le but de diminuer l'influence de l'ancienne capitale, a vu Moscou s'associer de plus en plus à ses idées. Tout ce qui naissait et se développait à Pétersbourg naissait et se développait à Moscou. Il est bon d'ajouter que toutes les villes de la Russie ont suivi cet exemple, si bien qu'en toute ville russe, on trouve toute la Russie. Nous n'ignorons pas que chaque coin de province puisse avoir ses particularités, qu'il y ait même parfois un désaccord momentané entre telle région et le centre gouvernemental. Certainement, l'avenir de la Russie est insondable. Mais enfin, il paraît beaucoup plus clair que celui de la plupart des autres pays. Il est bon que la province parle, à la condition de ne dire rien qui puisse menacer l'unité de l'Empire. Du reste, je ne crois pas que la parole fatale soit dite sitôt. Moscou, ce centre de la Grande Russie, a donc encore un bel avenir devant lui. Moscou n'est pas encore la troisième Rome. Pourtant, la prophétie doit s'accomplir, car il n'y aura pas de quatrième Rome, et l'univers ne se passera pas d'une Rome. Je dis Moscou au lieu de dire Pétersbourg, qui vit de la même vie intellectuelle, parce que Moscou est une sorte de symbole. Tout cela est allégorique, rien de plus. Qu'Astrakhan et Kazan ne se fâchent donc point, que ces villes continuent à publier des recueils littéraires que nous lisons avec grand plaisir. Il paraîtrait, un second pas, que nous ne nous en plaindrions point, au contraire. Le tribunal et Madame Kaïrova. Nous voici bien loin de l'affaire Kaïrova. J'y reviens. J'ai été plutôt content de voir que l'on a traité la Kaïrova de façon indulgente, bien que l'acquittement m'ait paru excessif. Je ne suis pas homme à m'indigner parce qu'on l'a mise en liberté. Pourtant, je ne crois pas à sa folie, malgré les opinions des experts. C'est mon sentiment personnel et je n'insiste pas. D'ailleurs, saine d'esprit, la malheureuse me semble encore plus à plaindre. Démente, elle ne savait ce qu'elle faisait. Indemne de folie, la misérable femme a beaucoup souffert. Le meurtre est toujours horrible. Elle a certainement connu d'atroces moments pendant les jours d'indécision qui ont précédé le crime, après la rentrée de la femme légitime chez son amant, à elle, Kaïrova. Et la malheureuse ne comprend pas que c'était elle qui outrageait. Cette dernière heure passée sur l'escalier, le rasoir à la main, cette dernière heure avant l'assassinat, a dû être épouvantable. Elle a subi 10 mois de douloureuses épreuves. On l'a enfermée chez les fous, et son procès a traîné, traîné. Et puis, cette femme réellement criminelle semble être d'une nature si absurde, si inintelligente à certains points de vue, si vaine, si futile, si peu maîtresse d'elle-même, que ça a été un soulagement quand on a su qu'elle n'était pas condamnée. Il est seulement dommage qu'on n'ait pas pu être miséricordieux, sans l'innocenter en quelque sorte par un acquittement. L'avocat Outine aurait dû se borner à un simple exposé des faits, sans chanter les louanges du crime. Il est vrai que nous ne savons garder de mesure en rien. En Occident, nous avons trouvé la théorie de Darwin. C'est une hypothèse géniale dont nous nous sommes hâtés de faire une série d'axiomes. L'idée que le crime n'est souvent qu'une maladie a un sens profond chez nos voisins d'Occident, parce qu'ils ont bien voulu distinguer. Chez nous, la même pensée n'a aucun sens parce que nous avons la rage de généraliser, et nous voyons en cela quelque chose de libéral. Il y a chez nous beaucoup d'hommes sérieux, et je ne parle pas pour eux en ce moment, mais il y a aussi la rue, la réunion des badauds bornés et des trafiquants du libéralisme, à qui tout est indifférent, du moment qu'une mesure quelconque a l'air d'être libérale. Quant à l'avocat Outine, il a fait l'apologie du crime, persuadé que, comme avocat, il ne pouvait parler autrement. Et voilà comment des hommes d'une valeur incontestable s'emballent à faux. Je crois que si les jurés avaient pu s'en tirer autrement qu'en acquittant, ils auraient tenté de protester par leur verdict contre les exagérations de M. Outine, et l'avocat aurait ainsi nui à sa cliente. Dans la presse, on les a loués et on les a blâmés. Moi, je crois que les jurés n'ont pu faire différemment. Voici en effet ce que nous lisons dans un compte-rendu de journal. À une question posée à la requête de l'accusation. La Kaïrova a-t-elle prémédité l'acte de porter main coup de rasoir au cou, à la tête et à la poitrine d'Alexandra Velikanova dans le but de la tuer, ce dont Velikanova elle-même et son mari l'ont empêché? Les jurés ont répondu non. Que pouvait-on répondre à une question ainsi posée? et qui voudrait prendre sur sa conscience de répondre affirmativement. Il est vrai que nous ne pourrions pas répondre davantage de façon négative, mais nous ne parlons pas de la réponse des jurés en tant que jurés. Il faudrait avoir la science universelle infuse pour répondre oui. La Kaïrova elle-même pourrait bien être incapable de répondre. Avait-elle l'intention d'égorger ou de frapper au hasard? C'est cela qu'on demande aux jurés, qui doivent le savoir encore bien moins qu'elle. Elle avait acheté le rasoir, soit, mais savait-elle le résultat de ce qu'elle ferait avec? J'irai même jusqu'à dire qu'elle a pu ignorer si elle frapperait ou non, pendant cette dernière heure passée sur l'escalier, le rasoir à la main, alors que sur son lit étaient couchés son amant et sa rivale. Personne, personne au monde ne peut savoir ce qui s'est agité en elle. Je veux encore aller plus loin. Me trouve absurde qui voudra. Je prétends qu'elle a très bien pu ne pas savoir ce qu'elle faisait au moment où elle frappait. Je ne dis pas qu'elle était folle et ignorait qu'elle frappait. J'admets seulement qu'il est possible qu'elle n'ait eu aucun but défini, la mort de sa rivale ou un autre. Elle pouvait égorger par haine, par fureur, sans penser aux conséquences de ce qu'elle faisait. À en juger par le caractère excessif, désordonné de cette malheureuse, je suis presque certain qu'il en a été ainsi. Remarquez que son sort dépendait de la réponse affirmative ou négative des jurés. Qui aurait voulu prendre un tel fardeau sur sa conscience? Ils ont répondu négativement parce que, en un tel cas, ils ne pouvaient faire une autre réponse. Vous me direz que le crime de la Kaïrova n'est pas un crime livresque, inspiré par l'imagination, qu'il n'y a là qu'une affaire de femme, très simple, très brutale, et que Velikanova était couchée dans le lit de Kaïrova. Voyez-vous cette dernière, s'arrêtant après avoir porté le premier coup et se sauvant? Cela aurait très bien pu arriver. Et l'on vient vous demander, avait-elle l'intention d'égorger complètement? Eh bien, et si prise d'horreur, après avoir frappé une seule fois, elle s'était tuée elle-même? Si au contraire, après avoir achevé sa victime, elle s'était acharnée sur le cadavre, lui coupant le nez, les lèvres, le cou? Si ce n'était qu'après avoir décapité Velikanova qu'elle eût compris ce qu'elle avait fait, quand on lui eût arraché des mains cette tête coupée? Tout cela aurait pu arriver, être accompli par la même femme, dans la même disposition d'esprit, dans les mêmes circonstances. Mais, me dira-t-on, alors on ne peut jamais porter un jugement sur un meurtre, si le crime n'a pas été suivi de la mort de la victime, ou au contraire, du parfait rétablissement de cette victime. Je crois qu'il y a des cas où la volonté de tuer est évidente, même quand l'assassin n'est pas arrivé à ses fins. Je crois que la conscience des jurés a justement quelque chose à faire là, et que la certitude leur dictera un verdict tout différent. C'est pour cela que je trouve excellente l'institution du jury. Somme toute, je crois que les erreurs sont rares. Le jury n'a qu'à éviter les excès de mansuétude ou de férocité. Il aurait plutôt tendance à pécher par mansuétude, par sentimentalité. Oui, et il lui est bien difficile de s'en défendre. La sentimentalité est à la portée de tout le monde. Elle est sympathique, elle est avantageuse, elle est commode et ne coûte rien. Le défenseur et Kaïrova. Je n'analyserai pas la plaidoirie de M. Outine. Je la trouve dépourvue de tout talent. Ce n'est pas de style élevé qu'elle manque, ni de beaux sentiments, ni d'humanitarisme du genre libéral à la mode. Mais tout le monde sait qu'à présent, les beaux sentiments courent les rues. Pourtant, il y a encore tant de gens naïfs à Pétersbourg. Ce sont autant d'admirateurs tout trouvés pour les avocats à effet. Ces avocats à effet n'ont pas toujours le loisir de s'occuper d'une affaire, de l'approfondir. De plus, il leur est arrivé si souvent de se servir de tous les moyens oratoires qu'ils ne s'impressionnent plus eux-mêmes, s'ils émotionnent encore les autres. En fait de cœur, il ne leur reste plus que quelque chose de sec et de creux qui leur bat sous la mamelle gauche. Ils ont fait, une fois pour toutes, provision de phrases sensationnelles, de pensées, d'opinions utiles, voire même de gestes appropriés aux circonstances. Alors, sûrs de ne pas être pris au dépourvu, ils s'enfoncent dans la béatitude. Et il est rare que leurs précautions ainsi prises d'avance ne leur assurent pas quelque succès. Je ne prétends pas que l'avocat à effet que je vous présente ressemble le moins du monde à M. Outine. Il s'est montré, en d'autres occurrences, homme de talent, et j'admets que les sentiments qu'il exprime soient en général très sincères. Toujours est-il que cette fois-ci, il s'est contenté de lâcher sur nous l'écluse aux phrases sonores. Malgré moi, j'ai été tenté de l'accuser de négligence, d'indifférence pour l'affaire qu'il vient de plaider. Il faut reconnaître que plus nos avocats ont de réputation, plus ils sont occupés et que les plus recherchés ont peu de temps devant eux. Si M. Outine avait eu un peu plus de loisir, il aurait pris cette affaire plus à cœur. Il aurait été plus soigneux de ménager ses effets et n'aurait pas célébré en style dithyrambique une intrigue assez peu digne d'admiration. Il nous aurait épargné ces phrases faussement tragiques sur les lionnes frémissantes auxquelles on arrache leurs petits. Il ne serait pas tombé avec un tel acharnement sur la victime de l'attentat, Madame Velikanova, ne lui aurait pas fait le reproche de n'avoir pas su se laisser égorger complètement. C'était presque dit en propres termes. Et ne se serait pas permis une sorte de jeu de mots sur les paroles du Christ à la pécheresse de l'Évangile. Je n'étais pas au tribunal, mais, d'après les comptes rendus de journaux, j'ai cru comprendre que M. Outine en avait pris à son aise et avait même frisé le ridicule. Dès que j'ai commencé à lire la plaidoirie, je suis demeurée un peu ahurie, me demandant de qui se moquait M. Outine. Était-ce par ironie qu'il remerciait le procureur de son réquisitoire contre la Kaïrova, déclarant que ce morceau d'éloquence était non seulement brillant, plein de talent et d'humanité, mais encore plus semblable à une plaidoirie qu'à un réquisitoire? Certes, les paroles du procureur étaient éloquentes et humaines, libérales au plus haut degré. Et il faut bien que ces messieurs de la défense et de l'accusation échangent des compliments cordiaux pour la plus grande édification des jurés. Mais après avoir loué l'accusateur pour sa plaidoirie, M. Outine ne voulut pas rester original jusqu'au bout et se mettre, lui, à accuser un peu Madame Kaïrova. C'est bien dommage. Cela eût été fort neuf. Je doute pourtant que cela eût étonné les jurés. Nos jurés ne s'étonnent plus de rien. Cette observation n'est qu'une plaisanterie de ma part. Monsieur Outine non seulement n'a pas accusé, mais il a encore défendu avec une maladroite exagération. C'est justement là que je vois une certaine négligence de sa part. Bah, se sera-t-il dit, je m'en tirerai bien toujours à la dernière minute en employant toutes les flamboyantes ressources du style élevé. Ce sera suffisant pour la galerie. C'est ainsi que se consolent messieurs les avocats trop occupés quand ils ont bâclé la préparation d'une plaidoirie. M. Outine s'est mis en frais de pathétique pour présenter Madame Kaïrova sous un jour idéal et romanesque. C'était bien inutile. Sa cliente est moins antipathique sans ce luxe d'ornement. Mais M. Outine comptait sur le mauvais goût des jurés. Tout en elle, d'après sa harangue, est sublime. Son amour est lyriquement torride. M. Outine idéalise tout. Si la Kaïrova, qui n'avait jamais débuté sur une scène, contracte un engagement dans un théâtre de région quelque peu lointaine, à Orenbourg, M. Outine voit là tout un poème d'abnégation. Elle a fait ça pour sa mère. La vieille dame avait besoin de quelques subsides. Je ne trouve pas la chose si extraordinaire. Il n'est pas rare qu'une jeune fille belle, pleine de talent, mais pauvre, s'en aille au loin en acceptant des conditions beaucoup moins avantageuses que celles qui étaient offertes à Madame Kaïrova. Mais le défenseur découvre, dans le seul fait d'avoir signé un contrat, la preuve d'une grandeur d'âme absolument héroïque. Kaïrova ne tarde pas à entrer en relation avec Velikanov, qui était l'imprésario de la troupe. Les affaires étaient mauvaises. Kaïrova se remue, sollicite et tire d'affaire son directeur. Il paraît que c'est encore héroïque. Je crois que n'importe quelle femme du caractère de cette vive, de cette fougueuse Kaïrova aurait sollicité impavidement pour l'homme aimé, dès qu'il y eut plus qu'amourette sans conséquence entre eux. Les scènes avec la femme de Velikanov commencèrent. Et après avoir décrit l'une de ces scènes, M. Outine nous affirme que, dès lors, sa cliente considérait Velikanov comme sien, voyant en lui sa création et son enfant chéri. On m'apprend à ce sujet que l'enfant chéri est de très haute taille, robuste, taillé en grenadier et orné d'une forte toison qui frise sur la nuque. M. Outine veut que Kaïrova ait eu l'intention de former cet enfant, de lui donner des idées nobles. Sans doute, l'avocat n'admet pas que sa cliente puisse s'attacher à Velikanov sans concevoir ce but élevé. L'enfant chéri ne s'améliora d'aucune façon. Je crois qu'au contraire, il se détériora chaque jour davantage. Voici venue l'ère des complications. Kaïrova et l'enfant chéri font une apparition à Pétersbourg. Puis l'enfant chéri se rend seul à Moscou pour chercher une place. Kaïrova lui écrit des lettres tendres et passionnées, mais Velikanov ne montre aucun talent épistolaire. Dans ses lettres, observe M. Outine, on voit un petit nuage poindre à l'horizon, un nuage qui plus tard envahit tout le ciel et déchaîne la tempête. M. Ouline a horreur du style simple et s'exprime toujours à l'aide d'impressionnantes images. Mais Velikanov revient et Madame Kaïrova et lui vivent à Pétersbourg. Marital-allemand s'entend. Nous arrivons à l'épisode le plus grave du roman. La femme de Velikanov reparaît et, dit M. Outine, la Kaïrova se sent tressaillir comme une lionne à qui l'on veut enlever ses petits. Car nous sommes en pleine période de grande éloquence. Elle n'avait pas besoin de cette éloquence pour nous sembler bien à plaindre cette malheureuse Kaïrova, qui ne sait quoi faire entre la femme et le mari. Velikanov se révèle perfide. Il trompe tour à tour sa femme et la Kaïrova. Il est surtout obligé à de grands ménagements envers cette dernière, qu'il calme en lui faisant accroire que sa femme va bientôt partir pour l'étranger. M. Outine nous présente l'amour de sa cliente comme une passion non seulement sympathique, mais édifiante et, pour ainsi dire, hautement morale. Si morale que la Kaïrova prend la résolution de proposer à Velikanova de lui céder son mari. « Si vous voulez vivre avec lui, prenez-le, sinon disparaissez ou moi je pars. Décidez-vous, choisissez. » Kaïrova eut l'intention de tenir ce langage à sa rivale, mais je ne parviens pas à savoir si elle parla ou non. En attendant, on ne s'arrêta à aucun parti et Kaïrova passe désormais son temps à bouillir de rage. Elle n'eût pas été femme, nous fait remarquer M. Outine, si elle eût cédé Velikanov sans lutte. La jalousie s'empara d'elle, anéantit sa volonté, l'émietta. Comment pouvait-elle dès lors se maîtriser? 10 jours se passent. Elle languissait. La fièvre la minait. Elle ne mangeait plus, ne dormait plus, courait de Pétersbourg à Oranienbaum. Et ce funeste lundi 7 juillet arriva. Ce lundi-là, ce jour funeste, Kaïrova se rend chez elle à la campagne. On lui dit que la femme de Velikhanov est là. Elle s'approche de la chambre à coucher. L'homme qu'elle aime passionnément est là, étendu sur son lit avec une autre femme. « Ah, messieurs les jurés !» s'exclame M. Outine. « Pouvait-elle demeurer impassible ? Il eût fallu pour cela qu'elle n'eût point de cœur. Ses sentiments ressemblèrent à ces torrents impétueux qui renversent et brisent tout sur leur passage. Elle était furieuse. Elle fut portée, n'est-ce pas, à détruire tout ce qui l'entourait. Si nous demandons à un torrent pourquoi il commet des ravages, que nous répondra-t-il ? Que de phrases, mon Dieu ! Mais arrêtons-nous un instant à ces phrases. Elles sont détestables. Détestables surtout parce qu'elles se trouvent dans le passage principal de la plaidoirie de M. Outine. Je tombe d'accord avec vous sur un point, monsieur le défenseur. Kaïrova ne pouvait rester impassible devant ce que vous venez de nous décrire. Mais elle n'est peut-être incapable de calme que parce qu'elle est Kaïrova, c'est-à-dire une femme faible et violente. Très bonne, sympathique, dévouée, je l'admets, bien que ces épithètes ne lui soient décernées que dans votre plaidoirie, mais d'une nature déréglée au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Je ne veux pas injurier une femme qui est malheureuse, et ne parle en ce moment que du dérèglement de son esprit. Mais c'est bien parce qu'elle n'a aucun empire sur elle-même que Kaïrova ne voit qu'une façon d'en finir dans la situation où elle s'est mise. Il ne faut pas dire que, seule, une personne dénuée de cœur eût pu trouver une autre solution plus généreuse. Traiteriez-vous de créature sans cœur une femme qui eût jeté le rasoir qu'elle tenait à la main ? J'ai peut-être été un peu loin en affirmant que vous aviez fait l'apologie du crime. Je me suis laissé entraîner par une indignation qui n'avait rien de vil. Pardonnez-moi d'avoir exagéré l'importance de vos paroles. Mais avouez que l'on prononce parfois dans une plaidoirie des phrases bien imprudentes. Réfléchissez qu'il y a des natures féminines plus nobles que celles de votre cliente et capables de concevoir un idéal plus élevé. Si Madame Kaïrova, plus magnanime, avait su comprendre au dernier moment, ne vous récriez pas, c'est très possible, surtout au dernier moment, avait su comprendre qu'elle seule était l'offenseur, qu'en abandonnant Velikhanov, elle pouvait faire plus pour ennoblir son esprit qu'en agissant de toute autre manière, je crois qu'elle serait partie en se demandant comment elle avait pu tomber si bas. Et si elle avait su se conduire avec une pareille générosité d'âme, l'auriez-vous traitée de femme sans cœur ? Ici, j'entends des voix qui me disent « Vous exigez trop de notre nature, c'est inhumain !» Ce serait trop demandé, en effet, et du reste, je n'exige rien du tout. J'ai frissonné en lisant le passage où on la voit écoutant près du lit. J'ai su me représenter tout ce qu'elle a pu souffrir, et je suis heureux qu'on ait rendu la pauvre femme à la liberté. Toutefois, rappelez-vous que celui qui a dit cette grande parole « Allez et ne péchez plus » n'a pas craint d'appeler « péché » le péché. Il a pardonné, mais il n'a pas acquitté. M. Outine, lui, n'admet pas que la Kaïrova eût pu agir autrement qu'elle n'a fait. Je prends la liberté de faire remarquer que le mal est le mal, qu'il conviendrait de lui donner son nom, loin de l'exalter et de vouloir transformer un crime en exploit presque héroïque. Monsieur le défenseur et Madame Velikhanova. Puisque nous parlons pitié et humanité, je crois que nous devrions aussi avoir pitié de Madame Velikhanova. Qui plaint trop l'offenseur ne plaint pas assez l'offensé. Pourtant, M. Outine semble refuser à Madame Velikhanova jusqu'à la maigre satisfaction de se voir considérée comme victime du crime. Il me semble, et je serais surpris si je me trompais, que M. Outine a eu, pendant toute sa plaidoirie, un grand désir d'attaquer Madame Velikhanova. C'eût été un procédé vraiment trop simple, et on aurait pu dire, monsieur le défenseur, que vous ne gardiez d'indulgence que pour votre cliente, et que cette indulgence était purement professionnelle. Vous avez qualifié de « sauvage et cruel » les paroles de Madame Velikanova, s'écriant qu'elle baiserait les pieds et les mains de la personne qui la débarrasserait de son mari. Madame Kaïrova, présente, déclara qu'elle le prenait. Et la femme de Velikanov lui répondit « Eh bien, prenez-le !» Vous avez fait remarquer que dès ce moment, Kaïrova a considéré Velikanov comme sien, a vu en lui sa création et son enfant chéri. Tout cela est très naïf. D'abord, qu'y a-t-il là de sauvage et de cruel? Certes, les paroles ne sont pas tendres, mais si vous pouvez excuser Kaïrova de s'être armée d'un rasoir, comment ne pouvez-vous pas pardonner une exclamation de femme furieuse et offensée? Vous reconnaissez vous-même que Velikanov est un être tellement impossible que l'amour de Kaïrova pour lui est une pure folie. Pourquoi ces mots, les pieds et les mains, vous paraissent-ils si effroyables? Un homme impossible s'attire parfois des paroles impossibles, et je ne vois là qu'une phrase. Franchement, si Madame Kaïrova s'était autorisée de ces paroles pour s'arroger le droit de confisquer le sieur Velikanov, elle me ferait l'effet d'une simple farceuse. Nous ne savons pas comment la phrase est venue. Et faut-il se montrer si sévère pour quelques mots jetés par une femme exaspérée? Dans bien des familles, on échange des propos autrement graves, sur lesquels on juge plus charitable de ne pas revenir. Et ne trouvez-vous pas la réponse de Kaïrova beaucoup plus offensante? La maîtresse triomphe d'enlever à la femme son mari. Ailleurs, vous insinuez que Madame Velikanova s'est procuré un certificat médical de pure complaisance afin d'éviter de se présenter devant la cour. Vous dites ensuite « Que pensez-vous, messieurs les jurés, de cette femme qui vient chez son mari? Qu'elle sait l'amant d'une autre femme? De cette épouse qui pénètre dans le domicile de la maîtresse, qui se décide à passer la nuit là et se couche sur le lit de sa maîtresse? Cela dépasse mon entendement. Vous êtes dur et injuste. Ignorez-vous que votre cliente a beaucoup gagné à la non-comparition de Madame Velikanova devant le tribunal? C'est qu'on a dit beaucoup de mal d'elle à l'audience. J'ignore son caractère, mais j'aime mieux qu'elle ne soit pas venue. Peut-être n'a-t-elle pas voulu se montrer, obéissant à un fier sentiment de pudeur de femme offensée. Peut-être s'est-elle abstenue de paraître par pitié pour son mari. Personne n'a le droit de savoir pourquoi elle n'est pas venue. En tout cas, il est certain qu'elle n'est pas de celles qui aiment à étaler en public leurs sentiments intimes. Et si elle était venue, qui vous dit qu'elle n'aurait pas expliqué de la façon la plus plausible du monde cette visite à son mari dont vous lui faites un crime? Car ce n'est pas chez la Kaïrova qu'elle est entrée, mais bien chez son mari, qui l'a appelée repentant. Et il n'est aucunement prouvé qu'elle ait su que Madame Kaïrova payait le loyer de la maison. Elle n'était pas forcée de savoir qui était la personne hébergée et qui était la personne payante. Le mari l'a demandé, elle est venue chez son mari. Il lui aura expliqué que c'était son logement, à lui. Vous savez bien qu'il ne faisait que tromper les deux femmes. Quant à ce que vous dites au sujet du lit de la maîtresse, il est peut-être tout aussi facile d'en donner l'explication. En général, je vois que tout le monde est tombé sur cette pauvre femme. Si Velikanova eût surpris Kaïrova dans la chambre de son mari et l'eût égorgée à coups de rasoir, il est très possible qu'on se fût fait un devoir de l'envoyer au bagne, étant donné sa fâcheuse qualité de femme légitime. Comment avez-vous pu dire, monsieur le défenseur, que Velikanova n'a pas souffert de tout ce drame, parce que peu de jours après, elle reparaissait sur la scène d'un théâtre et jouait ensuite tout l'hiver, tandis que Kaïrova passait 10 mois chez les fous? Je plains, non moins que vous, votre infortunée cliente. Mais avouez que Madame Velikanova a dû souffrir beaucoup, elle aussi. même si nous devons laisser de côté les chagrins qu'elle a éprouvés comme femme. Souvenez-vous, monsieur le défenseur, vous dont la plaidoirie révèle tant d'humanité, qu'elle a certainement ressenti d'affreuses angoisses quand elle a enduré quelques minutes, trop de minutes, de peur mortelle en présence de sa rivale armée et furieuse. Il est vrai que ces situations-là ne sont comprises que de ceux qui ont vu la mort de près. Mais songez à son réveil sous le rasoir de l'assaillante qui lui sciait la gorge, et elle a entrevu au-dessus d'elle le visage convulsé de Kaïrova. Elle s'est débattue, et Kaïrova continuait à la martyriser. Certes, elle a dû se voir déjà morte. Pensez-vous à ce qu'a pu être cet abominable cauchemar, ce cauchemar d'une femme éveillée, et c'est là le plus horrible, et quand on lui a couvert le visage d'un sac. Ah, monsieur le défenseur, considérez-vous ces tortures comme des bagatelles? Elle a dû éprouver ce qu'éprouve un condamné lié sur l'échafaud. Récemment, une marâtre a jeté d'un quatrième étage sa petite belle-fille âgée de 6 ans. L'enfant est retombé sur ses petits pieds, saine et sauve. Mais croyez-vous qu'elle n'ait rien souffert? Déjà, involontairement, je songe à la plaidoirie de l'avocat chargé de défendre la marâtre. On nous parlera de la situation affreuse d'une jeune femme épousée par contrainte, devenue la proie d'un veuf inhumain. On nous peindra sa vie pauvre, sa vie misérable, toute de labeur. Elle, la pauvrette, dame simple, de cœur pur, aura été en quelque sorte subornée par une enfant sans expérience. On lui aura vanté les joies du ménage, et ces joies auront consisté en linge sale à blanchir, en hideuse besogne de cuisine, en débarbouillage de mioches malpropres. Lavez cet enfant, messieurs les jurés, y pensez-vous? Comment voulez-vous qu'elle ne l'ait pas prise en haine? Et je parie que l'avocat découvrira chez l'enfant de 6 ans quelques noirceurs exécrables. Alors, prise de désespoir, dans un moment d'inconsciente folie, la malheureuse marâtre empoigne la petite fille. Ah, messieurs les jurés, qui de vous n'en eût fait autant? Lequel d'entre vous n'eût pas flanqué cet enfant par la fenêtre? J'exagère, je caricature, soit. Mais celui qui composera cette plaidoirie dira, croyez-le bien, quelque chose d'approchant. Or, le cas de cette coupable marâtre mériterait une analyse subtile et profonde, qui pourrait justement, peut-être, avoir pour résultat d'obtenir un peu d'indulgence pour la criminelle. Et voilà pourquoi j'en veux à la banale naïveté de vos procédés, messieurs les défenseurs. D'un autre côté, nos tribunaux ne sont-ils pas, à un certain point de vue, une école de morale pour notre peuple? Quel enseignement voulez-vous que ce peuple tire des harangues prononcées au cours des audiences? Parfois, on va jusqu'à lui servir de simple plaisanterie. Monsieur Ontine, à la fin de son plaidoyer, ne s'est-il pas amusé à appliquer à sa cliente ce verset de l'Évangile? Elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. C'est délicieux, d'autant plus que le défenseur savait très bien que ce n'est pas parce qu'elle avait aimé, comme l'entend Monsieur Outine, que le Christ avait pardonné à la pécheresse. Je trouverais irrévérencieux de citer en entier, à ce propos, ce sublime et attendrissant passage de l'Évangile. Je préfère consigner ici une observation personnelle qui ne touche Monsieur Outine ni de près ni de loin. Dès l'époque où j'étais élève de l'école militaire, j'ai remarqué que mes condisciples croyaient fermement, en général, à une sorte d'indulgence du Christ pour cette attrayante faiblesse, la luxure. Je me souviens de m'être souvent posé cette question. Pourquoi les jeunes gens sont-ils si enclins à s'expliquer de la sorte ce passage de l'Évangile? Ils semblent pourtant comprendre assez bien les autres. J'ai conclu que leur contresens avait une cause physiologique. Avec leur bonté naturelle, de jeunes Russes ne pouvaient trouver bien coupable, chez d'autres, une faiblesse qu'ils partageaient, dès qu'ils jetaient un regard du côté d'une jolie femme. Et du reste, Je sens que je viens de dire une sottise, mais je suis sûre que M. Outine sait fort bien comment il convient d'interpréter le texte en question. Chapitre 2. Au sujet d'un établissement, pensée parallèle. La fausseté et le mensonge nous guettent de tous côtés, au point de nous faire sortir parfois de notre calme. Au moment où le procès de Madame Kaïrova se déroulait devant le tribunal, je suis allée voir la maison des enfants abandonnés, où je n'étais jamais entrée, mais que je désirais connaître depuis longtemps. Grâce à un médecin de ma connaissance, j'ai pu tout visiter. Plus tard, je raconterai cette visite en détail. Je n'ai pris ni notes ni chiffres. Dès l'abord, j'ai compris qu'on ne pouvait tout voir d'un seul coup et qu'il me faudrait revenir une autre fois. Actuellement, je me propose de partir pour la campagne afin de voir les nourrices auxquelles on confie les enfants. Je donnerai donc plus tard ma description. Pour l'instant, je ne veux parler que des impressions glanées dans une première visite. J'ai vu le monument de Betsky, une enfilade de salles magnifiques où l'on a réparti les petits, les cuisines, les étables, où sont logés les génisses qui serviront à la vaccination des pensionnaires, les réfectoires, partout une exquise propreté, ce qui ne gâte rien. Des groupes de petits-enfants attablés, des fillettes de 5 ou 6 ans jouant au cheval, la division des jeunes filles de 16 ans et plus, anciennes élèves de la maison, et conformes au service, tout en leur faisant achever leur éducation. Ces dernières savent déjà quelque chose. Elles ont lu des livres de Tourguenev, ont leur petite façon de voir, très nette, ont causé avec nous très aimablement. Mais les surveillantes m'ont plu encore davantage. Elles sont toutes de physionomie affable. Et je ne pense pas qu'elles aient pris cet air-là rien qu'en l'honneur de notre visite. Paraissent bonnes et intelligentes. Quelques-unes ont de l'instruction. Elles m'ont beaucoup intéressée en m'apprenant que la mortalité des enfants en bas âge était incomparablement moindre chez elles qu'au dehors dans les familles. On ne peut malheureusement dire la même chose au sujet des enfants envoyés à la campagne. Enfin, j'ai vu la chambre du rez-de-chaussée où les mères apportent leurs nouveau-nés. J'ai examiné tout particulièrement les petits qu'on allaite et j'ai eu cette impression absurde qu'ils étaient vraiment bien insolents. J'en ai ri, à part moi. Mais voilà un gamin né n'importe où qu'on apporte ici et qui crie, vocifère, nous prouve qu'il a des poumons solides et veut vivre, gigote, hurle maintenant. Comme s'il avait le droit de nous assourdir ainsi. Il cherche le sein comme s'il avait droit au sein et aux soins comme les enfants qui sont dans leur famille. Oui, il se figure que tout le monde va se précipiter pour le servir. L'insolent petit être. On a toujours envie de lui demander s'il se prend pour un fils de prince. Et après tout, qu'y aurait-il de si étonnant à ce qu'il fût fils de prince? Il en vient de partout. Il en tombe même des fenêtres. Parlez-moi pour rabaisser le caquet de ces gaillards-là, de cette paysanne qui, agacée des glapissements d'un mioche laissé par la première femme de son mari, mit la main du petit sous le bec d'un samovar plein d'eau bouillante après avoir tourné le robinet. Oh, l'enfant, c'est sa nette, ses hurlements. Je ne sais pas comment les juges ont traité cette femme résolue, ni même s'ils l'ont jugée. En tout cas, n'est-elle pas digne de la plus grande indulgence? C'est que ces affreux moutards vous donneraient des attaques de nerfs avec leurs piaillements. Surtout à de pauvres femmes accablées de misère et de travaux de blanchissage. Certaines mères, oui, parfaitement, des mères, ont trouvé, pour apaiser leurs enfants, des moyens moins brutaux. Une demoiselle, intéressante et sympathique, entre dans un water closet, s'évanouit, ne se souvient plus de rien, mais sans qu'on sache comment, on trouve plus tard un enfant noyé. Dans quel liquide? Un enfant jeté là, sans doute parce qu'il était trop bruyant. N'est-il pas plus humain de noyer un petit être que de lui brûler la main à l'eau bouillante? Cette mère-là, il sera impossible même de la juger. La pauvre fille, trompée, apitoyante. Si l'on se met à penser à la Marguerite de Faust, il se trouve parfois au nombre des jurés des gens qui ont énormément de littérature. Comment pourra-t-on la juger? Il sera même bon d'ouvrir une souscription à son bénéfice. Je suis bien content que tant d'enfants aient trouvé asile dans la maison que j'ai visitée. En regardant ces petits, il me venait des pensées peut-être futiles. Je me demandais par exemple vers quel âge ces enfants se rendent compte de leur position, comprennent qu'ils ne sont pas des enfants comme les autres. Sans une grande expérience, il est bien difficile de le conjecturer, mais j'ai senti qu'ils doivent, de bonne heure, se douter de quelque chose, de si bonne heure que cela pourrait sembler incroyable à certaines gens. Ah ! Si l'enfant ne prenait connaissance de la vie que par les livres, il n'arriverait pas à la profondeur d'entendement que l'on découvre parfois chez lui. On se demande souvent comment il a acquis telles idées qui semblent devoir lui être inaccessibles. Un enfant de 5 ou 6 ans sait parfois, sur Dieu, sur le bien et le mal, des choses surprenantes, et vous en viendrez malgré vous à vous dire que certainement la nature a donné aux petits des moyens d'apprendre la vérité que n'ont pas découvert les pédagogues. Oh, parbleu, si vous interrogez un gamin de 6 ans sur le bien et le mal, il éclatera de rire. Mais ayez la patience de lui citer des faits, de voir ce que sa petite cervelle en déduit, et vous ne serez pas long à voir qu'il en sait peut-être plus long que vous sur Dieu, ce qui est louable et ce qui est blâmable. Il en sait même plus long que l'avocat le plus retors, parce que ce dernier est aveuglé par le besoin de faire valoir ses arguments. Oui, ces enfants des asiles doivent s'être rendus compte qu'ils ne sont pas comme les autres enfants, et je suis certain que ce n'est pas par les nourrices ou les surveillantes qu'ils le savent. Vous découvrez vite, j'en suis sûr, qu'ils ne comprennent que trop de choses à ce sujet. Aussi me disais-je que ces pauvres petits ont droit à une compensation. Il n'est que juste qu'après les avoir recueillis dans ces établissements, on fasse tout pour développer leur instruction et qu'on ne les laisse aborder la vie que solidement armés. Il faut que l'État regarde ces abandonnés comme ses enfants. On viendra me dire que c'est une prime accordée aux unions irrégulières, aux mauvaises mœurs. Mais croyez-vous vraiment que toutes les demoiselles intéressantes et sympathiques dont je parlais plus haut vont se hâter de peupler le pays d'enfants illégitimes dès qu'elles apprendront que leurs rejetons seront admis gratuitement dans les universités? Ne soyez pas absurdes. Oui, ai-je pensé, si on les adopte, il faut les adopter complètement. Je sais bien que cela excitera l'envie de beaucoup de braves gens honnêtes et travailleurs. « C'est trop fort !» gémiront-ils. « J'ai peiné toute ma vie, j'ai lutté pour faire bien élever mes enfants légitimes, sans réussir à leur assurer l'avantage d'études complètes. Me voici vieux, malade, je vais mourir bientôt, et mes enfants vont se disperser, livrés aux dangers de la rue ou esclaves dans des fabriques. Et pendant ce temps-là, les petits bâtards vont conquérir leur grade aux universités, trouveront de beaux emplois, et ce sera avec l'argent que je paie pour mes contributions qu'on en aura fait des personnages. » Je suis sûre que ce monologue sera débité. Et il est vrai que tout s'arrange bien mal. Ces plaintes sont à la fois cruelles et légitimes. Comment s'y reconnaître? Mais je n'ai pu m'empêcher de songer à l'avenir des enfants abandonnés. Parmi ceux qui ne sont pas secourus, il y en a d'âmes supérieures qui pardonneront à la société, d'autres qui se vengeront d'elle, le plus souvent à leur propre détriment. Mais donnez à ces déshérités un peu d'instruction et d'éducation. et je suis certain que bon nombre de ceux qui sortiront de cet établissement, par exemple, entreront dans la vie avec un grand désir d'honorabilité, avec la réelle ambition de fonder une famille estimable. Leur idéal, j'en jurerai, sera d'élever eux-mêmes leurs enfants, sans compter sur la générosité de l'État. Sans qu'ils soient ingrats, il leur viendra un juste besoin d'indépendance. Chapitre 3. Une idée à côté. Je viens de parler du légitime besoin d'indépendance. Aime-t-on toujours l'indépendance chez nous? Et en quoi consiste l'indépendance dans notre pays? Trouvera-t-on deux hommes qui la comprennent de la même façon? Je me demande même parfois s'il y a chez nous une seule idée à laquelle on croit sérieusement. La plupart d'entre nous, riches ou pauvres, pensent très peu, ne songent qu'à jouir de la vie le plus possible, jusqu'à épuisement de force vitale. Ceux qui se figurent être un peu au-dessus de la moyenne se groupent en petites coteries qui font semblant de croire à quelque chose en se trompant eux-mêmes. On trouve aussi une catégorie d'individus qui ont érigé en principe cette petite phrase « Plus nous en prenons, mieux ça vaut » et agissent conformément à cet axiome. Il y a encore de braves gens à paradoxe, généralement honnêtes, mais pas toujours brillants. Ces derniers, quand ils sont de bonne foi, en viennent assez souvent au suicide. Et les suicides ont tellement augmenté chez nous ces temps derniers que personne n'y fait plus attention. On dirait que la terre russe n'est plus assez forte pour porter ces hommes. Il ne faut pas perdre de vue, pourtant, que nous avons chez nous beaucoup de gens honnêtes, hommes et femmes. Les femmes de valeur, surtout, ne sont pas rares. Et ce seront peut-être elles qui sauveront le pays. Je reviendrai là-dessus. Oui, il y a en Russie beaucoup d'honnêtes gens, et surtout de braves gens, plutôt bons encore qu'honnêtes. Mais la plupart d'entre eux ne se font aucune idée exacte de l'honneur, ne croient plus même aux plus vieilles et aux plus claires formules de l'honnêteté. Dieu seul sait où nous allons. Et je me demande pourquoi je me suis mise à penser au suicide dans l'établissement que j'ai visité, en regardant tous ces enfants, tous ces nouveau-nés. Voilà, me semble-t-il, une idée qui ne rimait à rien dans ce milieu. Nous en avons beaucoup de ces idées à côté qui nous tourmentent, qui nous accablent. Telles consentent à vivre accablées, telles autres n'y peuvent parvenir et se tuent. J'ai lu à ce sujet une lettre fort caractéristique, une longue lettre écrite par une jeune fille et qui a été publiée dans Le Nouveau Temps. Cette jeune fille se nommait Pissareva. Elle avait 25 ans. Elle appartenait à une famille de gentilshommes terriens, jadis aisés. Mais les temps ayant changé, elle était entrée dans une école qui forme des sages-femmes. Elle avait bien passé ses examens et avait obtenu une place au Zemstvo. Elle avoue elle-même qu'elle ne manquait de rien, que ses gains dépassaient ses besoins, mais elle a été prise de fatigue et a voulu se reposer. « Où peut-on se reposer mieux que dans la tombe ?» dit-elle. Pourquoi une pareille fatigue? Toute sa lettre exprime une affreuse lassitude. Elle semble dire « Ne me tourmentez plus, j'en ai assez. N'oubliez pas de me dépouiller de ma chemise neuve et de mes nouveaux bas, » écrit-elle. « J'ai du vieux linge dans ma commode, qu'on me le mette. » Elle n'écrit pas « ôter », elle écrit « dépouiller ». On devine une exaspération terrible. Elle va jusqu'à la demi-grossièreté. Vous êtes-vous fourré dans la tête que je m'en irai chez mes parents? Que diable aurais-je été chercher là-bas? Ailleurs, elle s'exprime ainsi. Pardonnez-moi, Lipareva, et que Petrova, dans le logement de laquelle elle s'empoisonna, me pardonne aussi. je sais que je fais une ignominie, une cochonnerie. » Elle aime ses parents, ce qui ne l'empêche pas d'écrire. « N'avisez pas de ma mort la petite Lise, parce qu'elle en parlerait à sa sœur, qui viendrait hurler ici. Je ne veux pas qu'on hurle à cause de moi. Et tous les parents, sans exception, hurlent auprès des cadavres de leurs proches. » Elle ne croit ni à l'amitié de Liparava, ni à celle de Petrova, qu'elle aime pourtant toutes deux. Ne perdez pas la tête, ne croyez pas les soupirs nécessaires. Lisez jusqu'au bout, faites cet effort. Vous verrez quoi décider. N'effrayez pas Petrova. Mais, au fait, elle est bien capable de ricaner. Mon passeport est dans la valise. » Que cette pensée qu'on pourra ricaner en voyant son pauvre corps inanimé, que cette pensée ait traversé sa tête en un pareil moment, c'est terrible. Elle se montre étrangement minutieuse dans ses arrangements pécuniaires. Elle laisse une petite somme et ne veut pas que sa famille touche à cet argent. Il y a tant pour Petrova. Elle doit au Tchetchotchkin 25 roubles qui lui ont avancé pour un voyage. Qu'on leur rende leur dû. Cette importance extrême attachée à l'argent la montre fidèle à un préjugé répandu. Si tout le monde avait l'existence assurée, l'humanité serait absolument heureuse et ne connaîtrait plus le crime. D'ailleurs, ajoute-t-elle, il n'y a pas de crime. Le crime n'est qu'un phénomène morbide qui provient de la pauvreté, de la misère, de l'ambiance, etc. Telle est la doctrine de Pisareva, qui est excédée de l'ennui de vivre, qui a perdu toute croyance en la vérité, en la beauté d'un devoir quelconque à remplir, qui a délaissé tout idéal supérieur. Et la pauvre fille est morte. Je ne hurle pas auprès de toi, malheureux enfant, mais laisse-moi te plaindre. Permets-moi de te souhaiter une résurrection dans une vie nouvelle où rien ne t'excédera plus. Regarde pourtant. Un clair soleil de printemps brille dans le ciel. Les arbres se couvrent de verdure, et tu es fatigué avant d'avoir vécu. Est-il possible que des mères ne hurlent pas auprès de celles qui font comme toi, des mères qui ont veillé sur vous, pour les regards desquels vous avez été une caresse? Un enfant, c'est de l'espoir. Et je regarde ces petits abandonnés d'ici. Comme ils ont envie de vivre. Toi aussi, tu as été un tout petit enfant qui voulait vivre. Et tu crois que ta mère peut comparer sans douleur ton visage de morte à la petite figure riante et joyeuse qu'elle se rappelle si bien? On m'a montré tout à l'heure, dans cet établissement, une fillette qui est née avec un pied atrophié. Elle se porte merveilleusement bien et elle est extraordinairement belle. Tout le monde la caresse. Elle fait un signe de tête à chacun, sourit à chacun. Elle ne sait pas encore qu'elle est une estropiée. Faudra-t-il que celle-là aussi haïsse la vie? Nous arrangerons tout cela si bien qu'elle ne s'en apercevra pas, dit le docteur. Dieu veuille qu'ils disent vrai. Non, il ne faut pas haïr la vie, haïr nos semblables. Quand aura passé notre mesquine génération, une pensée nouvelle, plus lumineuse et plus noble, guidera les hommes, et l'on dira « La vie est belle ». C'est nous qui étions hideux. J'ai vu l'une des nourrices embrasser tendrement l'un des petits bâtards. Je ne m'étais jamais figuré que ces nourrices payées embrassaient ces pauvres petits-là. Elle a embrassé l'enfant sans savoir que je la regardais. Est-ce à cause de l'argent qu'on lui donne qu'elle l'aime? On loue ces nourrices pour qu'elles allaitent les petits abandonnés et non pas pour qu'elles les caressent. Je suis heureux d'avoir vu cela. Chez les paysannes finnoises ou estoniennes, on dit que les enfants ne sont pas aussi bien soignés, mais quelques-unes de ces villageoises s'attachent si bien à leurs nourrissons qu'elles ne les ramènent à l'établissement qu'en pleurant et reviennent plus tard les voir, parfois de très loin, leur apportent un petit cadeau et hurlent sur eux. Non, ce n'est pas l'argent qui les pousse. Ces femmes ne sont pas seulement des seins loués pour remplacer les seins maternels. Il y a de la maternité dans leur affection. Il n'est pas vrai que la terre russe se refuse à porter plus longtemps ses enfants. Voyez comme la source de vie jaillit ici, forte et belle. Certes, parmi ces enfants recueillis, il peut y en avoir beaucoup que mirent au monde d'intéressantes créatures qui, là-bas, chez elles, aiguisent un rasoir à l'intention de leur rival. Je dirais, en guise de conclusion, que le rasoir peut être un instrument très sympathique dans son genre, mais qu'il est fâcheux que le hasard m'ait amené ici au moment où je suivais le procès de la Kaïrova. J'ignore en grande partie la biographie de l'acquittée. Je ne sais donc pas si son nom me vient à propos en parlant de l'établissement qui nous occupe, mais je suis certain que tout son roman passionnel raconté au tribunal a perdu pour moi beaucoup de son intérêt lorsque j'ai vu cet établissement. Je l'avoue en toute franchise, et c'est peut-être à cause de cette visite que je me suis montrée si peu sensible en vous entretenant de l'affaire de Madame Kaïrova. Chapitre 4. Tendances démocratiques incontestables. Les femmes. Il conviendrait peut-être de répondre encore à une lettre de l'un de mes correspondants. Dans le dernier numéro du carnet, j'ai écrit ces lignes qui ont pu paraître entachées d'exagération. Avant peu, la Russie sera la plus forte de toutes les puissances européennes. Les autres grandes puissances disparaîtront. Elles seront épuisées par la lutte qu'elles auront à soutenir contre leurs prolétaires. En Russie, il n'en sera pas de même. Le bonhomme Demos est content. Il sera de plus en plus satisfait, de plus en plus uni. Un seul colosse demeurera sur le continent européen, la Russie. Mon correspondant m'objecte un fait qui semblerait prouver que Demos n'est pas aussi heureux que je veux bien le dire. En supposant qu'il me lise, il comprendra que je ne puis m'occuper à présent du fait en question, bien que je ne désespère pas d'y revenir prochainement. Pour l'instant, je veux dire un mot sur Demos, d'autant plus que d'autres personnes m'expriment des doutes sur son bonheur. Je leur ferai remarquer que j'ai laissé à entendre que sa prospérité lui viendrait de son union. De plus en plus satisfait, de plus en plus uni. En effet, si cette disposition à la concorde n'existait pas, mes contradicteurs auraient laissé passer mes appréciations sans les discuter. Cette disposition à la concorde, à la discussion courtoise, pour le bien de tous, existe véritablement. Elle est incontestablement démocratique et désintéressée. Elle est universelle. Oui, nous en convenons, il y a beaucoup d'insincérité dans certaines déclarations démocratiques de nos journaux. Beaucoup d'exagération dans la campagne contre les adversaires de la démocratie, lesquels, disons-le en passant, ne sont pas nombreux aujourd'hui. Néanmoins, la loyauté des sentiments démocratiques de la plus grande partie de la société russe ne peut guère être mise en doute. À ce point de vue, nous présentons un phénomène tout particulier en Europe, où, ordinairement, même à l'heure actuelle, la démocratie ne trouve ses champions que dans les basses classes, où les anciens dirigeants, vaincus en apparence, se défendent toujours avec vigueur. Notre aristocratie, à nous, n'a pas été vaincue. C'est elle qui est venue aux idées démocratiques. On ne peut le nier. S'il en est ainsi, vous avouerez qu'un brillant avenir attend notre démos. En admettant que tout ne se présente pas encore de la façon la plus favorable, il est permis de conjecturer que les malheurs passagers de démos disparaîtront peu à peu sous l'influence de ce que je n'hésiterai pas à appeler les tendances démocratiques universelles et la concorde absolue de tous les Russes, du plus grand au plus petit. C'est en envisageant ainsi les choses que j'ai pu dire que Démos était content et qu'il serait de plus en plus satisfait. Je ne vois là rien d'incroyable. J'aimerais ajouter ici un mot sur la femme russe. J'ai déjà dit qu'en elle résidaient beaucoup de nos espérances pour l'avenir. Il est incontestable que la femme russe a fait de grands progrès ces 20 dernières années. Ses aspirations sont devenues de plus en plus hautes, franches et courageuses. Elle nous a imposé l'estime et a aidé au développement de notre pensée. Il ne faut pas tenir compte de quelques défaillances. On peut déjà apprécier les résultats. La femme russe a bravement méprisé les obstacles et les railleries. Elle a nettement exprimé son désir de participer à l'œuvre commune. Elle a travaillé avec désintéressement et abnégation. Le russe, homme, s'est, au cours de ces 10 dernières années, terriblement adonné au libertinage, a été pris du prurite du gain, s'est fait gloire de son cynisme et de ses appétits grossiers. La femme est restée beaucoup plus que lui, fidèle au culte et au service de l'idée. Dans sa soif d'acquérir une instruction supérieure, elle a donné l'exemple de toutes les vaillances. Le carnet d'un écrivain m'a donné l'occasion de comprendre mieux la femme russe. J'ai reçu des lettres remarquables signées de noms féminins. Je regrette de ne pouvoir répéter ici tout ce qu'on m'a écrit. Ce n'est pas que je sois aveugle pour quelques défauts de la femme contemporaine. Le plus grave est d'accepter sans contrôle et de suivre trop loin certaines idées masculines. En tout cas, ce défaut témoigne d'assez nobles qualités de cœur. Les femmes apprécient surtout les sentiments généreux, les belles paroles, et plus que tout le reste, ce qu'elles croient être de la sincérité. Elles sont souvent victimes des sincérités apparentes, se laissent entraîner par les opinions spécieuses, et c'est malheureux. L'instruction supérieure pourra aider puissamment à corriger cela dans un avenir prochain. En adoptant avec toutes ses conséquences et sans restriction le principe de l'éducation supérieure accordée aux femmes, en y joignant les droits qu'elle doit procurer, la Russie ferait un grand pas dans la voie qui mènera à la régénération de l'humanité. Dieu veuille que la femme russe se lasse moins souvent, comme par exemple la malheureuse Pissareva. Qu'elle imite plutôt une autre russe, la femme de Tchapov, et qu'elle se réconforte aux heures de découragement par l'amour et l'abnégation. Mais l'une et l'autre sont également douloureuses à nous rappeler, et inoubliable, l'une si noblement énergique et si mal récompensée, l'autre désolée, désespérée, vaincue.